Comme annoncé il y a quelques jours, je vous propose aujourd'hui une homélie pour la messe de ce matin, puisque nous sommes dimanche. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. La fin de la parabole qui nous est proposée ce dimanche en est sans aucun doute la pointe. Il s'agit de veiller, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. De quel jour et de quelle heure s'agit-il ? Nous sommes ici au début du chapitre 25 de Matthieu. Si l'on resitue ce passage dans son contexte, on voit bien que depuis le début du chapitre 24, Jésus parle de la fin des temps. Cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier. Il y aura là un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin, a-t-il prévenu quelques versets plus haut. Il annonce ensuite la grande tribulation de Jérusalem, qu'on lit parfois comme une annonce de la destruction de Jérusalem en l'an 70 par les armées de Titus, puis l'avènement manifeste du Fils de l'homme. Oui, ces deux chapitres, 24 et 25, sont consacrés à la fin des temps et nous continuerons à les lire jusqu'à la fin de l'année liturgique, c'est-à-dire dimanche prochain et le dimanche d'après pour la solennité du Christ roi. Nous avons beau dire tous les dimanches que nous croyons en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Nous avons beau chanter, même si ce chant n'est plus tellement dans les registres actuels, « Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. » Ces sujets nous paraissent tellement difficiles que souvent, nous n'y réfléchissons pas. C'est comme si nous les occultions. Ces trois dimanches, et d'ailleurs aussi pendant le temps de l'Avent, l'Église nous propose de faire un pas vers ces perspectives. Se fondant sur l'Écriture, elle nous propose, l'Église, de mettre notre foi dans le fait que la fin dont parle Jésus se caractérisera d'abord par la résurrection de tous les morts, des justes et des pécheurs, comme le dit Paul dans les Actes des Apôtres. Cette résurrection sera suivie du retour glorieux du Christ pour le jugement dernier. Le Christ, nous dit Matthieu, dans un passage que nous entendrons dans deux semaines, viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges. Devant lui seront rassemblées toutes les nations et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ils s'en iront, ceux-ci, à une peine éternelle et les justes à la vie éternelle. Résurrection des morts d'abord, retour du Christ et jugement dernier ensuite. Et enfin, le chant auquel je faisais référence le proclame, l'instauration des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, évoqué notamment dans la deuxième lettre de saint Pierre et dans le livre de l'Apocalypse. Alors, proclame le Concile Vatican II, l'Église sera consommée dans la gloire céleste lorsqu'avec le genre humain, tout l'univers lui-même, intimement uni avec l'homme, et atteignant par lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection. Ces questions sont difficiles. Le catéchisme de l'Église catholique fait un beau travail de pédagogie à leur sujet, en donnant en particulier les références bibliques qui fondent l'enseignement de l'Église sur ce sujet. On comprend qu'on les occulte. Après tout, nous sommes tous prêts à parier que nous serons morts quand le Christ reviendra. Au séminaire, je riais sous cap quand presque chaque soir un prêtre nous disait « À demain au petit-déj, sauf si Jésus est revenu d'ici là. » Il y aura bien pourtant une génération qui sera la dernière et qui verra de ses yeux de chair l'avènement du Fils de l'homme. Il nous faut, je crois, prendre au sérieux la parole de Jésus. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. D'autant plus que le jour et l'heure dont parle Jésus ne sont pas seulement ceux de la fin des temps, mais peuvent aussi être reçus par nous comme ceux de notre mort. C'est du reste à cela que nous invite saint Paul dans la deuxième lecture. S'il parle incontestablement lui aussi des fins dernières, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. S'il parle donc incontestablement lui aussi des fins dernières, il évoque également le moment de notre mort. Nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Il les emmènera avec lui. Il nous emmènera avec lui. Regardez notre mort, l'envisagez. Essayez de nous y préparer. Cela non plus, ce n'est pas facile. Je me souviens encore, alors que pour la première fois de ma vie, j'avais vécu la mort de près, avoir été fasciné au lycée par la manière dont Montaigne parlait de la mort. Je cite un extrait des Essais. « La philosophie nous ordonne d'avoir la mort toujours présente devant les yeux, de la prévoir et de la considérer avant le temps où elle viendra. » Et elle nous donne ensuite les règles et les précautions pour pouvoir pourvoir à ce que cette prévoyance et cette pensée ne nous blessent pas. Il nous est souvent difficile, à titre personnel, d'envisager notre mort. Parce que nous ne savons pas ce que nous trouverons, bien sûr, mais aussi parce que nous ne connaissons pas le contexte dans lequel elle surviendra. Le problème, comme me dit avec beaucoup d'humour un membre de ma famille, centenaire, le problème, c'est de ne pas connaître le scénario. Je crois pourtant qu'il faut faire avec la mort. Je veux dire la nôtre, la mienne. D'autant plus que la deuxième lecture nous rappelle que ce n'est pas seulement à la fin des temps que nous est promise l'éternité bienheureuse, je viens de le dire, il les emmènera avec lui. Là encore, l'Écriture nous enseigne. La parabole du pauvre Lazare en Saint-Luc et la parole du Christ en croix au bon larron en Saint-Luc aussi, ainsi que d'autres textes du Nouveau Testament, cités là encore par le catéchisme de l'Église catholique. C'est au numéro 1021. Ces textes parlent d'une destinée ultime de l'âme qui peut être différente pour les unes et pour les autres. Parmi ces destinées, voulues par Jésus en ce qu'il est rédempteur, la béatitude du ciel. Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis, dit-il au bon larron. Nous souvenons avec saint Jean de la Croix qu'au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Envisager notre mort, nous y préparer même, c'est grandir dans l'amour. J'en arrive par là à cette veille dont parle Jésus. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. En quoi consiste cette veille ? En méditant l'évangile des vierges sages et des vierges folles, nous pouvons avoir de l'espoir. Il s'agit de veiller alors que pourtant chacune de ces femmes, les sages comme les folles, se sont toutes assoupies. Elle me rappelle ces femmes, les trois apôtres, qui se sont endormis à Gethsémani quand Jésus agonisait. Eux aussi, comme les vierges sages, sont ensuite entrées dans la salle des noces. Espoir pour nous qui souvent dormons. Il n'empêche que nous sommes invités à veiller. Souvent, dans la liturgie du dimanche, le lien entre la première lecture et l'évangile est évident. Ce n'est pas franchement le cas aujourd'hui. Sauf justement que le livre de la sagesse nous enseigne peut-être plus qu'il n'y paraît sur ce qu'est cette veille. La sagesse se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Je parlais à l'instant de l'amour comme une des composantes de cette veille qui nous est demandée par Jésus. C'est la vigilance qui consiste à prendre soin de l'autre, à faire attention à lui, à l'aimer en acte, en petites attentions de tous les jours. C'est en quelque sorte l'amour du prochain. Mais Jésus nous a dit que cet amour était inséparable de l'amour de Dieu. Contempler la sagesse, l'aimer, la chercher, c'est chercher Dieu. Penser à elle, comme dit toujours la première lecture, veiller à cause d'elle, c'est déjà l'aimer. Et aimer ainsi Dieu et son prochain, c'est déjà envisager sa mort. Non par trouille, non pour gagner son paradis, comme on disait autrefois, mais par désir de vivre déjà la vie éternelle en faisant dès maintenant la volonté de Dieu. La fin de l'évangile est rude. « Je ne vous connais pas, » dit l'époux aux vierges folles. C'est la deuxième fois en Matthieu que cette fin de non-recevoir est opposée. La première fois, au chapitre 7, elle était opposée à ceux qui passent leur temps à dire « Seigneur, Seigneur » et aussi à ceux qui revendiquent. « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons expulsé les démons ? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Je ne vous connais pas. » Jésus leur dit, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Veiller, au fond, c'est être en quête de la sagesse de Dieu, en cherchant à faire sa volonté tous les jours. Seigneur, donne-nous un cœur sage qui sache discerner ta volonté. L'ayant discernée, donne-nous de la mettre en œuvre dans nos vies en t'aimant plus que tout et en aimant nos frères et sœurs à cause de toi. Amen.